Alléluia. Notre privilège est grand encore ce soir de pouvoir librement ouvrir la parole du Seigneur et sans trop tarder, je voudrais vous inviter à ouvrir le Saint-Livre dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 10 et au verset 1er. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10 et verset 1er. Voilà, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'important, comme cela a été dit aussi, c'est que nous soyons attentifs, ouverts dans notre cœur et que nous puissions, avec la grâce de Dieu, essayer de faire un pas de plus vers lui. Cela a été dit dans une prière et je crois que c'est aussi le vœu du Seigneur que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de lui. Romains chapitre 10, verset 1er, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu » pour eux, il est question ici des Israélites, ses frères israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Il faudrait continuer encore plus loin, notamment un peu plus loin, toutes les vocations et la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile pour que les âmes, eh bien, non seulement soient au contact de l'Évangile, mais puissent surtout être sauvées par elle, parce qu'il n'y a que la foi qui vient de ce que l'on entend, de la prédication, la foi qui vient de là. Parole de Dieu, on le voit au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et nous voulons, c'est vrai, dans notre cœur, que cette parole de Christ, elle soit eh bien, généralisée autour de nous, parce que c'est la seule qui peut communiquer la foi. Il aurait fallu lire beaucoup d'autres choses, notamment commencer au chapitre 9, verset 30, mais juste resituer un petit peu le contexte quand même, contexte de ces versets. C'est lorsque l'apôtre Paul définit la chose suivante, c'est qu'il y a deux doctrines difficiles à ce moment-là pour les Israélites, pour les Juifs, à accepter. C'est la doctrine de l'incarnation, et encore aujourd'hui, certains ont beaucoup de difficultés avec cette dimension, la venue de Dieu parmi les hommes dans la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est une doctrine qu'ils avaient du mal à intégrer. Et il y a aussi cette doctrine de la résurrection. Et il suffit de voir tout au long du ministère de Jésus comment les Juifs ont été souvent furieux, je peux utiliser même ce qualificatif, lorsque Jésus professait qu'il venait de Dieu, qu'il était lui-même Dieu, qu'il avait été envoyé pour le salut d'un grand nombre. Et nous voyons aussi comment les Juifs, plus tard, au travers des apôtres, lorsqu'ils vont confesser cette doctrine de la résurrection, la fureur aussi qui venait des Juifs. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit ces quelques versets. « Ne dis pas en ton cœur, au verset 6, nous l'avons lu, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou alors qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ. » Paul déclare ici, dans ces quelques versets que nous avons lus rapidement, que ce que nous ne pouvons pas faire, et ce que Dieu surtout n'attend pas que nous fassions, Dieu l'a fait pour nous, non seulement les Juifs, mais pour tous les humains. Dieu est descendu. On n'a pas besoin, il y a toute cette représentation, vous savez, un petit peu de ce que la religion peut essayer de nous faire faire pour essayer de grimper, d'aller plus haut vers Dieu. Inutile. Christ est descendu. Il est venu vers nous. Et il a été ressuscité d'entre les morts, ce qui prouve que Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Le tout accompli que Jésus a manifesté à la croix est une réalité pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul en profite, et je mettrai l'accent plutôt à partir du verset 8 et le verset 9, l'apôtre Paul en profite pour présenter toute la simplicité de l'Évangile. Devant toute cette lourdeur que les Juifs mettaient peut-être à essayer de gagner, entre guillemets, la faveur de l'Éternel. À côté de cela, il y a, et j'aime ces versets particulièrement, cette simplicité de l'Évangile. Il suffit de, trop simple parfois, il suffit de croire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit, versets 8 et verset 9, peut-être le verset 9, « Il faut, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, voilà le message du salut, tu seras sauvé. » Qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, il faut croire que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, je l'ai dit tout à l'heure, preuve que l'œuvre de justification a été pleinement satisfaite par Dieu. Mais il y a aussi autre chose, et ça sera un peu l'accent que nous allons mettre ce soir sur notre message. Il y a aussi cette nécessité, vous l'avez vu, je dirais condition indispensable aussi pour le salut, il faut le confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Paul parle au verset 8, on peut le relire, que dit-elle donc? La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir, et c'est, on pourrait le mettre comme titre de ce message, je voudrais vous parler de la parole de la foi. Quelle est cette parole de la foi, cette, on pourrait dire, cette voie du salut telle que la présente l'apôtre Paul dans ces quelques versets, eh bien c'est celle-ci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est pas simple l'Évangile, hein ? Juste ce verset, suffisant pour que quiconque sur la surface de la terre puisse passer des ténèbres à la lumière. Et notons ceci, c'est qu'il doit y avoir une parfaite adéquation entre ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, ce qu'il y a au plus profond de notre être, et ce que nous professons, c'est-à-dire ce que nous déclarons ouvertement. Nous pouvons confesser certaines choses de notre bouche. Mais si nous ne croyons pas dans notre cœur, nous ne serons pas sauvés. On peut aussi croire, ça paraît un petit peu difficile, mais dans le plus grand des secrets, ne rien dire, ne rien manifester. Et dans ce cas-là, nous risquons de nous tromper nous-mêmes. Une personne ne peut être sauvée, selon les versets que nous avons lus, que si elle est prête à confesser de sa bouche que Jésus est le Seigneur. Et c'est cela la parole de la foi telle que l'apôtre Paul veut nous en parler. C'est une parole, la parole de la foi, une parole qui nous engage personnellement. Je le vis, je le crois parce que c'est écrit et je l'affirme, je le confesse. Je n'en ai point honte. Ça ne veut pas dire qu'il faut, même si c'est vrai, vous connaissez certainement cette hardiesse lorsque nous découvrons l'Évangile, c'est une expérience commune en général, on a envie que tout le monde le sache. On a envie de le dire. Alors ça ne veut pas dire forcément voilà, qu'il faut le dire à tue-tête et proclamer, mais ça veut dire que dans les circonstances, dans les conditions que Dieu permet, favorables ou non d'ailleurs, que nous avons dans notre vie, nous n'avons point honte, bien au contraire, d'affirmer que Jésus-Christ, non seulement est notre Sauveur, mais il est notre Seigneur. Il faut qu'il y ait, si on prend ces deux dimensions de ces versets, à la fois croire dans notre cœur et confesser de notre bouche, il faut qu'il y ait une harmonie parfaite entre ce que nous vivons dans notre cœur et aussi ce que nous disons, et je dirais même plus loin, et aussi ce que nous faisons. Non seulement nos paroles, mais aussi notre comportement. Et derrière cette parole, il y a, vous savez, ces attitudes. Vous savez que parfois, nos actes parlent plus que ce que l'on peut dire, surtout quand il semble y avoir de grandes contradictions. Non seulement nos paroles, mais aussi nos comportements doivent témoigner de notre appartenance à Jésus-Christ. Je ne peux pas dire « Il est mon berger » et être constamment agité, angoissé par les circonstances de la vie. Je ne peux pas dire que l'amour de Dieu est en moi, réside dans ma vie, et que mon témoignage auprès de mes proches, surtout, il faut qu'il soit attesté de cette dimension-là. Comment aimer, comment parler de la réalité de l'amour de Dieu si autour de moi, je ne vis pas, au-delà de l'expression de mes paroles, ce qu'il y a dans mon cœur. Et nous allons voir ce soir, avec l'aide de la parole de Dieu, que la parole de la foi, ici présentée dans notre introduction comme indispensable au salut, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Cette manifestation indispensable, eh bien nous verrons aussi qu'elle est très importante dans notre vie chrétienne, la parole de la foi. Alors dans un premier temps, je voudrais que nous puissions nous arrêter sur cette dimension de voir très rapidement, parce qu'ils sont trop nombreux, plusieurs exemples dans la parole de Dieu, dans la Bible, de paroles de foi. Et je voudrais les voir avec vous. On va regarder le premier dans le livre de Genèse au chapitre 22. Dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Alors pour ceux qui suivent régulièrement nos réunions, vous savez, vous reconnaîtrez certainement un texte qui revient souvent, parce que c'est un texte et surtout un témoignage d'Abraham qui est tellement riche d'enseignements pour nous que, instinctivement, quand on prépare des messages, souvent il y a des connexions qui se font sur des textes aussi puissants et aussi forts que celui-là. Lorsque, vous savez, Abraham a été mis à l'épreuve par l'Éternel pour qu'il offre son fils, on pourrait le lire au verset 1er, Genèse chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, notez bien cette parole, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas tout le texte, à lire toute la suite. Mais je m'arrête juste sur cette intervention d'Abraham parce qu'il y a là une parole de foi extraordinaire, malgré que Abraham avait reçu donc cet ordre de l'Éternel, et surtout qu'il avait son désir d'obéir. On peut peut-être difficilement imaginer tout ce qui pouvait se tramer dans l'esprit et dans le cœur surtout d'Abraham. Qu'importe, il y a une parole de foi extraordinaire où Abraham a cette conviction dans son cœur que Dieu allait pourvoir pour la victime, ou que même, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que même Dieu était capable de ressusciter son fils d'entre les morts. entre parenthèses, Abraham savait toutes les promesses qui avaient été attachées sur Isaac et toute la descendance qui devait exister après lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi dans une sorte de préfiguration. Il retrouva son fils, on trouve ce texte dans Hébreux au chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 19. Parole de foi, nous reviendrons. Un deuxième exemple, alors il y en aurait beaucoup, j'en ai juste sélectionné quelques-uns comme ça, dans le livre de l'Exode, ça concerne Moïse dans un contexte très particulier. J'ai pris des versets un peu saisissants quand même de certaines circonstances particulières. Lorsque le peuple d'Israël, vous savez, va sortir du peuple d'Égypte après tant d'attentes de la délivrance de l'Éternel. Et puis à un moment donné, Dieu va permettre des circonstances particulières. Et là, voilà, grosse impasse. On va juste lire donc Exode chapitre 14 au verset 10. Il est dit ceci, Exode chapitre 14 verset 10, « Pharaon, approchez. » Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Amen. Parole de foi extraordinaire dans une situation très particulière. On ne peut pas imaginer ce que Moïse pouvait ressentir. Il y avait eu tellement la délivrance. Mais le peuple d'Israël, remué par désespéré jusqu'au point presque de regretter leur condition qui n'était pas si lointaine. Mais Moïse a cette confiance inébranlable en son Dieu. Nous ne savons pas de quelle manière précise, mais en tout cas, il y a une parole de foi qui est donnée, et quand vous lisez les versets suivants, vous voyez que la chose s'est réalisée ainsi. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est une parole de foi qui déjà, par avance, annonçait la victoire. Peut-être un dernier exemple dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple d'Élie dans le premier livre des Rois. Premier livre des Rois, au chapitre 17. Alors, je vous rappelle que toute la Bible est inspirée de Dieu, est-il, pour nous enseigner. Je sais que parfois, c'est peut-être pas simple dans l'Ancien Testament, dans certains textes, peut-être différents du Nouveau Testament, d'être sensible en tout cas à ce que l'Éternel veut nous apporter. Et je crois que ces enseignements sont là aussi et sont riches pour nous, pour réaliser combien Dieu veut aussi que nous avancions et que nous vivions aussi de belles choses avec lui. C'est juste l'expérience d'Élie au chapitre 17, 1 Roi chapitre 17. Il est dit ceci, « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Amen. Juste ce verset qui est là aussi un exemple de parole de foi. Alors, il faut dire quelque chose, c'est que il est indéniable que tous ces hommes qui ont accompli des choses extraordinaires savaient saisir la parole de la foi qui tient les réalités qui sont à ce moment-là des réalités encore invisibles, mais qu'ils les tiennent dans leur vie comme des réalités visibles, comme si elles existaient déjà. Et ils confessent cette réalité alors que les choses ne se voient point. Et cette déclaration que je viens de vous partager, il faut qu'on la lise ensemble dans Hébreux. Hébreux au chapitre 11, le verset 1er, quand il est mention notamment dans tout ce chapitre, nous l'avons fait très succinctement, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, prend le temps de parler de tous ces hommes et de toutes leurs expériences, et notamment surtout de cette foi qu'ils ont mis en action. Hébreux chapitre 11, et on prend juste ces deux premiers versets. Certains le voient un petit peu comme une définition de la foi, en tout cas des caractéristiques essentielles à la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je vais vous le relire dans la transcription Parole vivante. Et qu'est-ce que la foi ? Bien, la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Et ces réalités que nous avons lues succinctement sont des réalités de parole de la foi que ces hommes ont expérimentées et qui ont permis finalement à ces réalités qui à un moment donné étaient invisibles de se transposer dans le monde visible et les choses qu'ils ont vécues. Alors on est toujours dans ce premier point de plusieurs exemples dans la Bible de paroles de foi et je voudrais bien sûr mentionner aussi l'exemple par excellence, c'est celui de Jésus-Christ qui... Et les exemples seraient trop nombreux pour développer comment cette parole de foi a été clairement mise à l'évidence par tous les miracles que Jésus a accomplis, toutes ces paroles qu'il a prononcées. À la mer, il dira « Silence, tais-toi ». À l'esprit impur, il dira « Sors de cet enfant ». Au paralytique, il dira ceci « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Des paroles de foi. Au lépreux, il dira « Sois pur. » Et tous étaient étonnés, stupéfaits de l'autorité qui se dégageait de la parole de Christ. Et peut-être un plus que tous les autres, le centenier. Rappelez cet homme, semble lui, peut-être le plus que tous, avoir compris la puissance qui résidait dans cette parole de Christ. Le centenier a dit au Seigneur, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Vous savez ce que Jésus a pu dire par la suite. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La parole de la foi. Même si nous ne pouvons pas comprendre exactement tous les mécanismes, il n'empêche que la parole de foi, comme nous l'avons vu d'ailleurs pour le salut en introduction, est essentielle à notre vie chrétienne. Vous savez, notre relation avec Dieu, et c'était bien que Lucas, dans la présentation des chants, rappelle que dans ces moments que nous voulons particulier avec le Seigneur, ce n'est pas des moments qui doivent être tout simplement, vous savez, des énumérations, de certains besoins, même légitimes qu'il y a dans notre cœur. Ce que nous avons, c'est ces besoins de cette présence, de cette communion avec le Seigneur. Notre relation avec Dieu ne doit pas se limiter à demander. Et demander, vous savez, peut-être parfois, tout juste en espérant que ce que nous demandons, il vaudra bien peut-être que la chose s'accomplisse. Mais la parole de la foi, telle que nous l'avons juste survolée dans ces quelques textes, nous montrent très clairement qu'il y a des réalités spirituelles que Dieu veut que nous saisissions. Et cette parole de la foi que nous pouvons expérimenter dans notre vie, elle rend des choses qui sont encore dans la dimension de l'invisible, elle les rend comme réelles et nous rendent capables les uns et les autres de confesser ces choses-là par notre bouche. Mais attention, la parole de la foi a une particularité importante, fondamentale, et ce sera notre deuxième point. La parole de la foi est une obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Dans tous les exemples que nous avons cités de l'Ancien Testament, et encore plus à plus forte raison du Seigneur Jésus-Christ, il y a un point commun dans tous ces textes, c'est que à aucun moment, cette parole de foi ne laisse de place au doute quant à la volonté de Dieu et à l'intention de Dieu. Toutes ces paroles de foi étaient conformes à ce que Dieu voulait, étaient conformes à son intention et à son plan. On va lire un verset ensemble. J'hésite parce que j'en ai tellement, alors, mais certains, il faut qu'on y aille. Jean chapitre 11. Quand je parlais de ces paroles de foi, notamment du Seigneur Jésus, il y a cette parole, vous savez, lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare, « Lazare, sort !» Et vous savez qu'est-ce qu'il s'est dégagé de cette parole de foi. Et je voudrais juste lire un verset avec vous. Au verset 42, Jésus a dit ceci, lorsqu'il élève la voix et qu'il prie le Père, il dit ceci, « Pour moi, Jean chapitre 11, verset 42, « Je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Dans le contexte un petit peu, je le résume très rapidement, mais il était nécessaire pour le Seigneur Jésus d'affirmer et en tout cas de permettre au maximum de réaliser qu'il était véritablement l'envoyé de Dieu. Mais je note juste cette expression qui est quand même assez forte. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et vous savez pourquoi Jésus pouvait dire cela? Pourquoi? Ouais, exactement. Il y avait une telle relation entre Jésus et son Père que le Père communiquait à son Fils exactement ce qu'il devait dire et ce qu'il devait faire. Alors il y a beaucoup d'autres textes qui nous confortent dans ce sens, mais je dis juste cela pour que nous puissions réaliser pourquoi Jésus, quand il prie, peut dire « Je sais que tu m'exauces toujours ». La parole de foi est une obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Et vous savez, ce verset un peu nous impressionne, je ne sais pas pour vous, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que nous pouvons vivre la même réalité que le Seigneur Jésus. Une telle promesse s'attache à la vie de chaque croyant. Nous pouvons, nous aussi, nous pouvons être certains de l'exaucement de nos prières. Et nous pouvons l'affirmer. Je voudrais lire avec vous dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5. Il est certain qu'il nous faut beaucoup d'humilité pour lire ces textes et exprimer ces choses que nous partageons. En tout cas, ce sont des réalités, même si on se sent à mille lieues et qu'on a plutôt l'impression que voilà, nos prières ne dépassent pas plutôt le plafond. Que, voilà. Il y a ces réalités, en tout cas, que Dieu, je crois, veut que nous vivions et que nous entrions avec beaucoup d'humilité. Dieu connaît nos cœurs, on n'a pas besoin de faire de faux semblants. Mais en tout cas, sa parole, vous savez, on lit les versets au-delà de ce que je peux commenter autour, à vous d'attester que ces choses que je vous présente sont conformes, en tout cas, à la vérité. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, et là, vous n'écrivez pas sur votre Bible, mais entourez-le en rouge suivant ce que l'on partage maintenant, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. L'importance de rechercher sa volonté, ou au moins de connaître sa volonté avant de demander, pour prier conformément à sa volonté et pouvoir dire comme Jésus, « Je sais que tu m'as exaucé. » Personne n'est en train de bouger l'aiguille de l'horloge, je vois qu'elle passe vite. Hein. Quand on est là-haut, on a tellement de choses à vouloir partager. Il est certain qu'il va y avoir souvent dans notre vie d'énormes tensions entre ce qui est du domaine de notre propre volonté, de nos propres désirs, et sa volonté à lui, son désir. Il y a d'énormes tensions. Et je vous cite juste, peut-être pour qu'on voit un petit peu cette réalité, l'expérience de Jésus lorsqu'il est à Gethsémané. Vous savez, Jésus savait parfaitement ce qui allait s'accomplir, ce qui allait arriver, etc. Mais à un moment donné, il y a un moment de tension très fort, enfin, c'est même indescriptible, ces souffrances, cette agonie qu'il a pu connaître à Gethsémané. Et il y a cette tension, parce que faut savoir quand même que Jésus était saint, il n'avait commis aucun péché, et que petit à petit, il allait porter le poids du péché de toute l'humanité. La noirceur de notre péché allait recouvrir la blancheur de Jésus. Et je pense que cette agonie aussi, ces temps, on les retrouve à la croix du calvaire lorsque Jésus dira « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il y a une séparation difficile. Et je crois que cette tension parfois est peut-être dans des moments difficiles de notre vie. Vous savez, il y a des choix qui sont peut-être importants, particuliers. Et il est important certainement aussi, comme le Seigneur Jésus l'a fait, de prendre du temps à part, de prier, peut-être de jeûner, d'intercéder. Nous ne sommes pas dans notre nature conformés à la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'évident. Et il peut y avoir parfois d'énormes tensions. Il est fondamental dans notre vie de foi et de prière de mettre toute notre énergie à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et non seulement à la discerner, mais ensuite à y obéir. Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La parole de foi réside dans toute cette attitude où non seulement je connais la volonté de Dieu, mais en la professant, en la confessant, je m'engage à y obéir. On chante parfois ce chant, vous savez, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. C'est certainement la bonne attitude que nous avons à faire, de se taire, de prendre peut-être un temps de retraite, qu'importe. Vous savez, il y a des moments cruciaux de notre vie, il y a des étapes particulières où nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas savoir ce que nous avons besoin de demander sans discerner véritablement la volonté de Dieu. Alors, nous savons que Dieu n'est pas limité par les moyens pour nous communiquer sa volonté. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'est pas limité. Et nous devons nous attendre avec beaucoup d'humilité à lui pour que sa volonté se révèle pleinement et que nous puissions savoir. Vous savez, parfois dans nos prières, on ne sait pas trop ce que l'on peut demander. Vous savez, il y a ce verset, peut-être ne le cherchez pas, je vais le reciter pour vous. « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, dans Romains au chapitre 8 et au verset 26. Parfois cela prendra du temps de chercher, de discerner la volonté de Dieu. Peut-être parfois cela ressemblera même à un combat spirituel. Je fais référence à Gethsémané comme je vous en parlais tout à l'heure. Mais parfois, et je voudrais terminer par ce troisième point, parfois les choses se feront plus naturellement. Et le troisième point que je voudrais vous laisser, c'est que la parole de foi, elle est révélée dans la communion avec Christ. De la même manière que Jésus avait pu dire « Je sais que tu m'exauces toujours grâce à cette profonde communion qu'il avait avec son Père. De même, chaque enfant de Dieu peut avoir, je dirais, de l'audace dans la foi parce qu'il n'est qu'un avec Christ. Vous savez ce que l'apôtre Paul a pu déclarer : « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dans Galates au chapitre 2, verset 20. Il y a un texte, on peut le regarder peut-être ensemble, dans Philippiens chapitre 2 et au verset 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Il y a une autre réalité, je vous la cite, on ne peut pas regarder tous les textes, mais où l'apôtre Paul quand même va loin dans sa comparaison, il dira ceci, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je vous ai lu 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. J'espère que vous comprendrez ce que je vais dire. Je crois que nous n'avons pas besoin de chercher la volonté du Seigneur pour bon nombre de choses dans notre vie. Pourquoi ? Parce que Dieu vit en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Dieu qui est en nous exprime sa volonté presque naturellement. Alors je veux que ça soit bien compris, parce que je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher la volonté de Dieu et s'efforcer, bien au contraire. Mais je dis que, vous savez, il y a parfois des excès dans ce recherche de la volonté, savoir voilà, comment je dois m'habiller, etc. etc. Voilà, c'est peut-être pas forcément besoin de jeûner pour ça. Il faut, je pense, oser croire que notre volonté et nos désirs sont les siens. Quand nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ » qui vit en moi. Dieu y crée le vouloir et le faire. Dieu crée ses aspirations dans nos vies. C'est lui qui le fait, à moins que nous soyons conscients, et là nous avons besoin d'être honnêtes, d'être conscients que ces désirs-là et ces volontés sont totalement opposés à la volonté de Dieu. Nous avons trop souvent le réflexe que notre volonté et nos désirs ne sont pas les siens, mais les nôtres. Et je pense que c'est une expérience que vous avez certainement souvent faite, de se dire, voilà, telle pensée, elle vient de moi. Et de penser que la recherche de la volonté doit se faire d'une intervention particulière de Dieu. Mais si Dieu est en nous, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ayons confiance en lui pour que ses désirs soient les nôtres, pour que sa volonté se superposer à la nôtre. Bien-aimé, dira l'apôtre Jean, si notre cœur ne nous condamne pas, c'est pour cela que je parlais d'honnêteté, parce que nous pouvons savoir si les choses que nous vivons sont conformes ou non à la volonté de Dieu, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné dans 1 Jean chapitre 3 verset 21 au verset 24. La parole de foi est révélée dans la communion avec le Christ. Vous savez, Jésus, vous inquiétez pas, je vais terminer. J'ai résumé un petit peu des notes parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, mais Jésus a parlé avec ses disciples du cep et du sarment. En leur expliquant cette vérité, que de la même manière que le sarment reçoit la vie du cep, leur vie allait être maintenant semblable. C'est-à-dire que maintenant, leur relation naturelle allait être ce qui venait de lui. La sève de sa pensée, la sève de ses désirs, la sève de la volonté de Dieu qui circule naturellement dans leur cœur, je dirais, j'exagérerais peut-être un peu, sans effort, presque naturellement, ils n'auraient avec lui plus qu'une seule volonté et qu'un seul désir, la volonté de Dieu. C'est pour cela que je disais, et que j'ai été peut-être un peu excessif pour que vous compreniez bien, qu'il y a certainement beaucoup de domaines dans notre vie où nous devons avoir confiance dans les désirs et les volontés que Dieu met dans nos cœurs et dans nos vies par l'action et la présence du Saint-Esprit. Je dis cela, mais je le développe pas, parce que je crois que l'ennemi, parfois, alors qu'avant de se convertir, il nous a empêchés, le plus qu'il a pu, que cette parole, nous l'écoutions, que nous la recevions, et qu'elle produise ce fruit de la vie éternelle dans nos vies, je crois que tout au long de notre vie aussi, il veut nous faire douter de la réalité de la parole de Dieu en nous. Et nous avons besoin d'avoir de l'assurance, si nous avons donné notre cœur, si nous avons cette réalité que nous sommes le temple du Saint-Esprit, qu'il est là et qu'il nous guide et qu'il nous conduit. Je conclurai quand même en disant ceci, Jésus ne promet pas de répondre à nos prières sans condition préalable. Nous pouvons avoir ce que nous demandons, si, avec un grand S, un grand I, si, comme il l'a dit, vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dans Jean au chapitre 15 et au verset 7. Il ne nous cache rien. Notre efficacité dans la prière, elle dépend totalement du niveau d'intimité que nous avons établi les uns et les autres avec le CEP. Si nous tirons notre vie de lui et que nous laissons ses paroles imprégner tous les domaines de notre vie, alors, et j'insiste, et seulement à cette condition, nous pouvons, mes frères et sœurs, nous attendre à ce que nos prières soient exaucées. C'est cela la parole de la foi, telle qu'elle a été salutaire pour nos vies lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, mais que nous avons besoin aussi d'expérimenter dans des domaines particuliers de notre vie. Non seulement être au contact de la parole, entendre la volonté de Dieu pour telle ou telle situation de notre vie et pouvoir confesser, pouvoir exprimer ces paroles de foi comme si ces réalités qui sont réelles finalement dans le monde invisible, elles étaient présentes dans le monde visible aujourd'hui. Et Dieu nous invite à l'expérimenter. Je voudrais prier un instant avec vous, s'il vous plaît. Éternel, combien nous nous sentons petits, souvent par rapport à ces réalités spirituelles que tu veux nous communiquer. Et nous avons besoin de beaucoup d'humilité, c'est vrai parfois, pour pouvoir aborder ces versets si extraordinaires que tu veux nous communiquer. Nous savons une chose, c'est que tu ne nous mens pas et que tu ne nous feras jamais aspirer des choses que nous ne pourrons pas vivre, Seigneur. Mais nous croyons au contraire que si tu nous présentes ces choses-là, c'est que tu as pourvu tout ce qu'il fallait, Seigneur, pour que nous puissions les vivre. À nous peut-être d'ouvrir notre cœur, à nous peut-être de reconsidérer nos voies, nos choix, peut-être de reconsidérer notre engagement que nous avons pris avec toi. Oui, nous voulons marcher comme Jésus a marché, nous voulons lui ressembler. Nous voulons, Seigneur, que lorsque nous nous adressons à toi, que nous te prions, Seigneur, nous puissions être conscients de la volonté qui vient de toi. Seigneur, nous voulons t'obéir. C'est difficile pour nous, Seigneur, parfois. Seigneur, mais nous voulons le faire. Seigneur, avec nos faibles mots, Seigneur, avec toute la faiblesse de nos vies, nous crions à toi, Seigneur, pour que tu nous aides dans ta compassion. Seigneur, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je ne veux pas que ce que nous avons partagé ce soir comme une idéologie inaccessible, Seigneur, mais que ce soit des réalités que tu veux déposer dans chacun de nos cœurs. Il y a des âmes à sauver dans notre famille. Il y a des enjeux majeurs dans notre vie, Seigneur, et nous avons besoin de connaître ta volonté. Nous avons besoin, Seigneur, de rentrer dans les desseins qui viennent de toi, Seigneur. Alors merci. Merci de nous avoir invités encore ce soir à méditer ces quelques versets. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour que l'ennemi ne vienne pas dérober, Seigneur, cette semence, mais que nous puissions la garder au fond de notre cœur, qu'elle prenne du fruit, et que, parce que nous allons vivre ensemble, Seigneur, nous puissions permettre que ton nom soit pleinement glorifié, ici-bas sur la terre comme il l'est dans le ciel. Que ton nom soit béni. Amen.